Figaro, on est comme dans une espèce de village, c'est que non seulement c'était un théâtre, non seulement c'est un lieu qui accueille le public, qui accueille les chevaux, qui est un lieu de travail, mais qui est aussi un lieu de vie. C'est notre port d'attache, on va dire. C'est là qu'on crée, c'est là qu'on répète, c'est là qu'on joue tous les hivers quand même, 4 mois dans l'année. Donc c'était important pour nous d'avoir un lieu où on puisse vraiment asseoir notre travail, quoi.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Pour trouver la paix, rendez-vous chez Zingaro, ex-Anima, à Aubervilliers, nouveau spectacle de la compagnie de Bartabas dont les chevaux sont les acteurs, ou plutôt les vedettes. Pas de cavaliers, eux seuls sur la piste, évoluant dans une apparente liberté que l'on partage et que l'on savoure. Bonjour Bartabas.
Bonjour.
Bienvenue dans le Grand Atelier, on va passer 2 heures avec vous. Il faut bien 2 heures pour évoquer votre passion, le cheval et le spectacle, pour rencontrer aussi des hommes et des femmes que vous avez conviés. Et vous m'avez dit en préparant l'émission, j'ai peut-être un fil conducteur, j'ai envie d'inviter des personnes passionnées et qui toute leur vie ont suivi un chemin, des personnes qui sont restées fidèles à leur passion.
Voilà, oui, pas seulement des gens, j'allais dire... connus pour ce qu'ils font, mais aussi qui ont la droiture d'avoir gardé une ligne toute leur vie. Quoi. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Quoi. C'est les parcours m'intéressent beaucoup aussi.
Votre ligne, à vous, ce serait quoi?
Oula, bah, c'est de me lever tous les matins déjà et d'aller monter mes chevaux. Non, c'est de tenir une ligne un peu, d'avoir développé un peu notre passion, ce qu'on voulait faire, notre aventure commune avec le théâtre Zingaro, et cela peut-être en dehors des circuits traditionnels et institutionnels, on va dire, quoi. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu le travail de Zingaro et pour qui cette compagnie représente quelque chose parce qu'elle a su rester en marge, je veux dire, des institutions et rester toujours fidèle à sa, je veux dire, à sa ligne de conduite, pas seulement artistique, mais même, pour moi, c'est important, de conduite de vie au jour le jour, quoi.
Alors, les chevaux sont quasiment seuls en scène, j'ai envie de parler d'eux comme d'acteurs. Vous avez dit, je veux qu'on les voit, je veux pas qu'on les monte, parce que je veux leur rendre ce qu'ils m'ont donné.
Oui, bah, Zingaro peut être qualifié d'une compagnie de théâtre qui est composée de moitié d'humains, moitié de chevaux, hein, puisqu'il y a à peu près 40 chevaux et à peu près 40 personnes selon les projets, ça change un petit peu, mais la base c'est ça. Et donc, comme je dis souvent, les gens qui travaillent à Zingaro ont choisi de travailler avec moi. Parfois, pour leur plus grand malheur, parfois. Mais les chevaux, eux, n'ont pas choisi, on a choisi pour eux, quoi. Donc on a la faiblesse de croire qu'on fait tout pour qu'ils soient heureux et bien traités, mais voilà, c'est pas une volonté de leur part. Donc c'était important, après plus de 30 ans d'existence, de dire tiens, ben là, on va leur rendre hommage, on va les célébrer, quoi.
Je me suis rendu il y a quelques jours à Zingaro pour assister au spectacle, et j'étais pas le seul, il y avait pas mal de monde, donc j'ai eu envie de sortir mon micro.
Je vais voir des chevaux magnifiques que j'ai aperçus tout à l'heure dans l'écurie. Ça m'attire beaucoup, j'adore les chevaux. Mon mari était jockey, donc voilà. Alors c'est amusant parce que moi je suis là parce que la fille de ma meilleure amie travaille ici. Donc comme j'étais en week-end à Paris, elle m'a emmenée là.
Vous êtes la mère d'une personne qui travaille ici, qu'est-ce qu'elle y fait?
Elle est palefrenier.
Quelle vie elle mène ici?
Elle mène une vie de bohème. Elle est au contact du public, elle est au contact des animaux. Je peux pas être plus fière. Je voulais qu'elle soit danseuse étoile et sur scène. Elle est sur scène, mais pas... mais pas danseuse étoile.
Et sa fameuse autorité à Bartabas, son fameux caractère?
Joker.
Chaque fois, il trouve d'autres idées. Et puis, l'univers des chevaux, c'est vraiment magnifique. Il arrive à les dompter de manière assez spectaculaire. On ne ressort pas comme on est venu. Et je crois que dans celui-ci, apparemment, il n'y a personne sur scène, excepté les chevaux. Pour l'instant, ça m'intrigue. Voilà.
Bartabas est extraordinaire avec les chevaux. Il a une empathie avec les chevaux et il dit qu'il laisse les chevaux être acteurs et que lui se retire. C'est pour ça que je vais voir un petit peu ce que ça donne parce que c'est extraordinaire. Il fait partie des chevaux et en même temps, il a tel respect qu'il veut prendre ses distances.
Alors, sans vouloir vous bousculer, mais si vous pouviez allonger un peu le pas.
Ouais. Alors, vous, le spectateur de Zingaro depuis longtemps, dernier spectacle.
Ben, je le trouve très très évolué. En même temps, c'est un best-of de tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Il y a beaucoup de poésie, des contrastes entre des moments plus sombres, plus lents, et d'autres beaucoup plus rapides. Et je suis encore dans ma bulle, là, donc ça va être très difficile d'en sortir. Hein. C'est vrai que c'est une poésie, un univers, une énergie. Et je vais vous dire que d'ici 3-4 mois, j'aimerais bien retourner. Hein. Je pense qu'il a fait des progrès par rapport aux deux précédents. Il y a plus de vitalité, moins de morts. D'habitude, c'était des spectacles qui mettaient en évidence l'amour de l'homme pour le cheval, du cheval pour l'homme. Cette fois-ci, c'est l'amour des chevaux entre eux et les jeux amoureux entre les chevaux qui ont tendance à se mordiller. C'est assez bizarre.
Ça vous donne envie d'aller voir les chevaux maintenant ?
Oui, complètement. D'ailleurs, je vais y aller tout de suite.
Alors, vrai ou faux ? C'est le dernier spectacle ?
C'est le dernier en date, déjà, on verra. Mais
il y a un flou autour de cette fin ou pas, hein ?
Bah, comme tout ce que je fais les chevaux m'ont un peu appris ça, de respecter mon instinct, et donc je fais les choses comme ça, sans trop réfléchir, à vrai dire. Et j'ai eu besoin, normalement tu peux écrire dernière création, dernière en date, j'avais eu besoin d'écrire ça, je peux pas savoir pourquoi. Peut-être parce qu'effectivement, quelque part, cette démarche-là, ce spectacle-là, s'il est réussi, je me disais, c'est vraiment, voilà, il a fallu presque plus de 30 ans pour arriver, oser déjà faire ça, et puis y arriver, quoi, parce que c'est quand même, ce n'est possible qu'avec la complicité de chevaux qui sont nos partenaires depuis plus de 10 ans. Hein. Tu fais pas ça avec des chevaux qui viennent d'arriver il y a 15 jours ou 2 mois. Donc, quelque part, j'avais besoin d'affirmer que c'était un peu le bout d'une démarche. En tout cas, la démarche de Zingaro, cette recherche-là, je vois mal comment elle peut aller plus loin, quoi. Il y en aura d'autres. Il y en a d'autres avec l'académie. Il y a d'autres projets. Il y a d'autres. Mais voilà, je ne sais pas en fait.
Que vous disent vos camarades de la compagnie Zingaro, Martha Bass ?
Qu'il serait temps que j'arrête quand même parce que je l'ai fait chier depuis 30 ans. Non, mais voilà, c'est ça aussi. Ça a été possible qu'avec des cavaliers qui travaillent avec moi depuis plus de 20 ans, parce qu'il faut une sacrée dose quand même d'humilité, hein, pour se retirer. C'est pas tout de faire un spectacle qui plaît, même qui est très beau. Mais ça veut dire que pendant 2 ans et demi, parce que c'est à peu près la durée de vie d'une création, hein, ils vont pas apparaître en scène à cheval, quoi. Donc ça représente quelque chose. C'est comme si un musicien disait, tiens, je vais pas jouer de mon instrument pendant 2 ans et demi, je me contente de le regarder, quoi. C'est quand même particulier. Alors même si, bien sûr, ils travaillent leurs chevaux tous les matins, ils montent leurs chevaux. Et ça, c'est bien. Moi, ça fait longtemps que je pratique. Ça les oblige un peu à monter pour eux-mêmes, j'allais dire, et pour leurs chevaux, pas pour la répétition d'un spectacle. Ce qui est quand même très intéressant, ce qui permet de se ressourcer aussi. Donc j'espère que ça débouchera sur quelque chose que je trouverai intéressant, j'espère.
Bon, on va continuer de parler avec vous, bien sûr, sur France Inter, Martha Bass, mais je vais vous faire écouter, et on va écouter ensemble Toto Bona Lokoa. C'est 3 musiciens africains qui régulièrement se retrouvent, jouent ensemble. Ils viennent d'enregistrer un nouveau disque qui s'intitule Bondeko. Voici la chanson Mamama.
Si moi aimais depuis nanina non, toujours et tout dans la caille. Quelquefois à mon corps défendant.
Oui, Gérald Toto, Richard Bonnat, Pascal Lokwakanza et leur nouveau disque Bande d'écho paru sur le label No Format qui les avait déjà réunis en 2004. On va parler avec vous, Bart Abbas, d'architecture dans un instant, de lieux de vie, de gens qui habitent des espaces avec Patrick Bouchain, votre ami l'architecte Patrick Bouchain, et puis Sophie Ricard aussi qui vient de Rennes, qui est architecte, elle aussi architecte nomade. Bonjour Sophie.
Bonjour.
On définira ce qu'est une architecte nomade. C'est beau d'ailleurs, c'est assez poétique dans quelques instants avec vous. Mais il y a aussi Jean-Pierre Drouet. Qui est Jean-Pierre Drouet, Bart Abbas ?
Ouais, Jean-Pierre Drouet, il va rougir, mais pour moi, c'est le plus grand percussionniste français, déjà, pour commencer.
Pourquoi français ?
Et d'ailleurs, je dis pourquoi français, c'est ridicule. Oui. D'abord, il a fait la musique de mes deux premiers longs-métrages, Mazeppa et Chaman. Et puis, bon, c'était un compagnon de plusieurs créations au début de Zingaro. Hein. L'opéra équestre, Chimère, dans lequel il a joué, Eclipse, et puis au Châtelet, entre aperçus, enfin voilà, plein de projets ensemble.
Alors, il a accompagné les Double Six aussi à une époque, hein, dans les années 60, Jean-Pierre Drouet.
Ouais, ça c'était avant.
Ce groupe vocal, moi je suis impressionné parce que j'aime bien les Double Six créés par Mimi Perrin. Et oui, puis oui. Vous avez fait plein de choses et vous êtes venu avec quoi ? Avec des instruments, il y en a un peu partout sur la table. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Vous avez le droit d'intervenir quand vous voulez. Hein. Qu'est-ce qu'on peut entendre de vous là ?
Ah ben, je sais pas, j'ai du choix. Hein.
Mais ça fait pas peur aux chevaux, ça, Bart Abbas ?
On les habitue à tout, vous savez. Quand une fois qu'ils ont travaillé avec Jean-Pierre Drouet, ils peuvent tout. Ils peuvent travailler avec Boulez, ils peuvent travailler avec Stravinsky, il n'y a pas de problème.
Et comment vous travaillez tous les deux ? Jean-Pierre, vous venez voir le travail que fait Bart Abbas, et ensuite naissent des sons, des envies, ou c'est Bart Abbas qui vous dit « Tiens, j'aimerais telle ambiance ».
On a fait tout sur le tas, petit à petit. C'est des influences réciproques.
Oui, voilà, il y a eu plein de cas de figure différents, quoi, entre des compositions qu'il avait fait pour l'opéra équestre, des petites pièces de violon qu'il m'avait proposées, dans lesquelles j'avais choisi. Après, entre aperçus, où il a carrément fait tout le son du spectacle, pratiquement en direct au Châtelet, quoi. Des fois aussi d'encadrer un peu les musiciens, comme souvent dans les spectacles de Zingaro, il y a des musiciens qui venaient un peu, j'allais dire, de l'autre bout du monde, hein, que ce soit des musiciens, des chanteurs du Rajasthan ou des chanteurs coréens ou des chanteuses coréennes. Donc des fois, c'était plus comme directeur musical pour les encadrer aussi un petit peu, ou en tout cas les aider à mettre tout ça en place, quoi. C'est un musicien très sérieux quand même, malgré ce qu'on croit, quoi. Et c'est ce qui m'a plu chez lui aussi beaucoup, c'est qu'il a travaillé pas mal avec des musiciens contemporains, de musique contemporaine.
À Pergis,
entre autres. Et c'est un des rares musiciens contemporains qui a de l'humour, quoi. Et ça, je trouve ça bien, parce que c'est ce qui manque souvent dans ce genre de musique.
Bon, allez, on retourne à Aubervilliers. Quelqu'un nous attend dans votre caravane. Bart Abbas, c'est l'architecte Patrick Bouchain, qui est un ami, je le disais, qui a le droit de vous appeler Martex, parce que c'est votre surnom, hein, et seuls quelques amis ont le droit de vous appeler comme ça. Patrick Bouchain, il a construit votre lieu de vie et de spectacle à Aubervilliers en 87, et aussi l'Académie équestre de Versailles, créée en 2003 par vos soins. Et nous l'avons rencontré, donc, il y a quelques jours. Patrick Bouchain, vous connaissez bien Bart Abbas et son travail, et vous faites un peu partie de la bande Zingaro.
Je l'ai presque connu enfant. Je l'ai vu pour la première fois en 1977, et on a construit donc Aubervilliers en 87. Donc vous voyez comme quoi, des fois, il faut un temps long pour faire des choses simples. Non, ce qui est très drôle, si vous voulez, c'est que son père était architecte, parce que son père est mort, son frère est architecte, et quand nous nous sommes rencontrés et qu'il m'a demandé de faire son bâtiment, c'est comme un enfant qui voulait se séparer de son père. Et donc, j'ai rencontré son père qui m'a dit « Mais tu n'y arriveras jamais ». Et donc, pendant très longtemps, c'est pas que je l'ai considéré comme mon fils, mais un peu.
Bart Abbas, vous souhaitiez que Patrick Bouchain fasse partie de votre grand atelier, ouais. Pour quelle raison ?
Pour moi, c'est un bâtisseur dans tous les sens du terme, pas dans le terme justement pompeux d'architecte, de cathédrale, mais de gens qui ont la dynamique pour construire des projets, les porter vraiment, quoi. Il a un dynamisme incroyable, soit pour l'Académie de Versailles, qu'il a conçu en 6 mois pratiquement, quoi. Enfin, entre le moment où on s'est retrouvé autour d'une table, un petit bout de papier, et le moment où on l'a ouvert, il s'est passé seulement 6 mois, quoi. Parce qu'il a une force de porter les passions des gens, quoi. Et moi, j'adore entendre, d'ailleurs, c'est pas moi qui devrais parler, parce que j'adore entendre parler Patrick, parce que je trouve qu'il a un vrai discours, quoi. Pas un truc, un peu comme dans les cultureux, quoi, qui font des grands discours sur leur spectacle, puis le spectacle est nul. Et lui, c'est un discours qui est, vraiment dans l'action et dans l'écoute. Des gens. Et ça, c'est important, parce que je pense qu'un bâtisseur, notamment un architecte, est censé construire des bâtiments pour les gens qui vont ou les habiter ou les utiliser, quoi, ce qu'on oublie trop souvent. Quoi.
Patrick Bouchain s'intéresse autant au spectacle qu'à l'architecture, son premier métier.
C'est un expert en matière de réhabilitation d'anciennes usines, mais aussi de chapiteaux ou de dispositifs provisoires. Je travaille à créer en architecture une situation dans laquelle la construction pourra se réaliser d'une autre façon et produire de l'inattendu, donc de l'enchantement.
Un architecte, c'est un humaniste ?
D'abord, l'architecture, c'est un métier artistique, mais c'est en même temps un métier de service. Comme l'architecture, c'est fait pour être habité, en effet, un architecte, c'est humaniste, puisque c'est pour que les hommes y habitent. Et justement, avec Bartavas, c'est la première fois où on faisait une maison pour les animaux, on pourrait dire, ou pour les chevaux. Donc ici, c'était de les mettre en avant comme des acteurs. Donc c'est pour ça que le plan, on pourrait dire que c'est Bartavas qui l'a fait, puisque l'idée, c'était de passer par les loges et de les voir, en fin de compte, avant le spectacle. Donc dès le moment où vous dites ça, ben, c'est simple, un escalier, vous passez au-dessus des écuries, puis après, vous allez dans les gradins. Mais quand on a fait Versailles, il m'a dit « Mais tu connais pas bien les chevaux ?» Donc c'est compliqué parce que je ne veux pas un box dans lequel le cheval ne serait pas bien et je ne veux pas non plus une stalle comme ça l'était du temps de Louis XIV parce qu'il y avait un palefrenier à chaque cheval à l'époque. Et donc du coup j'avais un jeune étudiant et on a fait le relevé de tous les box qui existent dans les haras ou dans les châteaux comme les box du château de Chaumont par exemple, ils sont très, très beaux. Et on a fait une synthèse de tous ces box. Et à chaque fois que quelqu'un visite les box à Versailles, les gens pensent qu'on a reproduit des box historiques, où certains disent « Mais comment vous avez fait pour inventer un box pareil ?»
Intéressant aussi dans ces projets, c'est ce que je veux dire, ce qui est en creux. Il y a ce qui est bâti et il y a ce qui est laissé à l'utilisateur. Et ça, c'est un truc que Patrick, parce qu'il faut quand même beaucoup d'humilité aussi pour faire ça, pour pas mettre sa marque. À l'heure où tous les architectes rêvent de mettre leur marque, ils veulent qu'on reconnaisse leur bâtiment, ils s'en foutent de l'utilisation, l'important c'est qu'elle le signe, etc. Enfin bon, le discours habituel. Lui, c'est laisser le creux. C'est-à-dire que non seulement c'est un lieu qui accueille du public, qui accueille des chevaux, qui est un lieu de travail, mais qui est aussi un lieu de vie. Et la vie, il a eu le courage de ne pas la régir. C'est-à-dire de ne pas dire, voilà, alors ça va être comme ça, chacun va habiter là, là, là. Là où tout le monde veut mettre des règles dans l'habitat, dans l'urbanisme, en disant, voilà, pour l'esthétique, il ne faut pas que ça dépasse telle hauteur, il ne faut pas que ça soit avec tel matériau. Là, c'est libre. Si quelqu'un veut faire un truc en parpaing, il pourrait éventuellement. Mais personne ne l'a fait. Ici, dans les mondes désignés à tout le monde, c'est bâti son truc un peu en bois. Alors, de briques et de broc, ça ressemble un peu aux maisons américaines des années 60. Mais il n'y a pas de mauvais goût. Et on se balade dans ce village, on a l'impression que c'est un rapport assez poétique à la vie, comme ça, qui est assez brut, effectivement, parce qu'on passe d'une caravane à un lieu bâti comme ça. Mais ça s'est fait de manière complètement sauvage et libre, quoi. Et ça, je trouve que c'est important. C'est une notion qu'on oublie souvent dans l'architecture, c'est de tout simplement faire confiance aux gens qui vont l'utiliser, quoi, pour se l'aménager comme ils l'entendent et pas tout leur régir, quoi.
Je pense qu'on a complètement oublié que l'architecture est un art populaire, que on est presque tous architectes, ou tout au moins on a tous expérimenté l'architecture, parce qu'on a tous aménagé, transformé son logement. Et donc en effet, si on laissait faire, il y aurait une richesse culturelle, il y aurait une culture populaire, une imagination sociale, moi comme je dis, qui naîtrait. Et donc là aujourd'hui, mettons, au lieu de détruire le logement social, qui est un capital social, peut-être qu'il a été nécessaire à un moment donné, voilà, de sortir d'un bidonville pour avoir l'eau chaude ou une cuisine équipée, mais ça ne suffit pas. Il faut une liberté et une appropriation. Et au lieu de détruire, on pourrait dire, allez-y, il est à vous, aménagez-le. Il y aurait un tel mélange des cultures qu'on serait très surpris. Voyons, d'un seul coup, on s'apercevrait que l'immigration, elle est nécessaire, y compris pour enrichir notre culture.
Vous restez, Bartavas, vous restez ici, longtemps, même si vous tournez.
Eh ben, on vit ici, hein, c'est-à-dire qu'entre chaque ville, de toute façon, on revient là, parce que les chevaux, par principe, ne peuvent pas enchaîner de villes, puisqu'il faut reconstruire à chaque fois les écuries dans chaque ville, le chapiteau. Donc c'est notre port d'attache, on va dire, quoi. Et en plus, c'est notre lieu de vie, c'est-à-dire que c'est là qu'on crée, c'est là qu'on répète, c'est là qu'on joue tous les hivers, quand même, 4 mois dans l'année. Et puis voilà, c'est notre base, quoi. C'est le même. Enfin, il nous a fallu ça. Ça a été une longue discussion avec Patrick au tout début, hein, parce qu'on se posait la question est-ce que c'était une bonne idée pour Zingaro de passer de l'état de nomade à semi-nomade, on va dire. C'était une vraie question. Faut pas oublier quand on a commencé. Moi, je descendais mes chevaux qui vivaient dans mon camion. Et dès que je voyais une pelouse à peu près plate sur un parc, là, je commençais à travailler mon cheval. Donc il y avait toujours des gens qui regardaient, ils disaient « Ah, c'est marrant, un cheval ». Il y a toujours un mec qui commençait à dire « Mais vous avez l'autorisation pour être là ?» Et là, je savais que j'avais à peu près un quart d'heure avant que les flics débarquent pour partir, quoi. Donc voilà, on a quand même vécu ça pendant plusieurs années au début de Zingaro, quoi. Donc c'était important pour nous d'avoir un lieu où on puisse vraiment asseoir notre travail, quoi, qui est un travail de longue haleine sur une vie, pratiquement.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Le prélude de la première suite pour violoncelle de Bach, oh, voilà quelque chose que vous écoutez assez régulièrement, Bach, Bartabas.
Bah oui, je ne dois pas être le seul, je pense.
Oui, mais peut-être même aussi avec vos chevaux par moment.
Ah oui, bah pour moi, c'est agir pour l'instant, parce que j'aime pas trop parler de manière définitive comme ça, parce que le rapport à l'art et notamment à la musique est tellement lié à ton vécu, c'est-à-dire qu'il change en fonction de... Il n'y a pas d'absolu, on va dire. Enfin, c'est vrai que c'est quand même ma référence. Ben voilà. D'ailleurs, avec Jean-Pierre, on avait travaillé sur Chaman, qui est un film qu'on avait j'avais tourné en Sibérie.
Votre musicien, Jean-Pierre Drouet, le percussionniste.
De pièces de Bach et de Guimbard, oui, qui écoute.
Si on vous dit Bach, Jean-Pierre Drouet, est-ce que ça vous inspire quelque chose?
Pas vraiment, non.
Non, non, je, non, non. Vous préférez le silence qui suit Bach?
Moi, ça me donne envie de me taire. Oui.
Eh bien, on va laisser parler Sophie Ricard. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Vous êtes une disciple de cet architecte et ami de Bartabas, Patrick Bouchain. Il y a beaucoup de similitudes entre vous, entre vos gestes architecturaux, comme on dit?
Oui, bah c'est Patrick qui m'a révélé quelque part.
Ça a été votre prof?
Bon, c'est presque ça, oui. Il a été pour moi l'enseignant que je n'ai pas eu durant mes études d'architecture à Versailles. J'étais non loin de l'école Ecasse de Bartabas. J'étais dans les anciennes écuries du roi, donc dans l'école d'architecture de Versailles. Et effectivement, j'étais assez remontée. En tout cas, je me questionnais suite à l'enseignement que j'avais reçu en école d'architecture, où je trouvais que l'acte de construire n'était pas assez, en tout cas, plébiscité dans sa dimension humaine, sociale et politique, surtout.
On vous apprenait surtout à dessiner?
On nous apprenait surtout à dessiner et à dessiner des choses peut-être monumentales au sens du geste, justement, au sens de l'œuvre monumentale. Alors que bon, effectivement, la première des choses, c'est d'habiter, quoi. L'homme, effectivement, on a créé, on est en société, on vit en société parce qu'on habite quelque part. Et donc ça, on nous l'a pas enseigné. Et du coup, effectivement, je me définis comme architecte nomade aujourd'hui car j'ai décidé d'habiter sur les sites même du projet. Et c'est Patrick Beauchin qui m'a donné l'occasion, finalement, de m'interpréter moi-même quelque part ou de savoir où je voulais aller en me donnant la possibilité de vivre un projet un peu particulier à Boulogne-sur-Mer.
Vous avez vécu pendant 3 ans rue Auguste Delacroix. Pour faire quoi ?
L'idée de Boulogne, c'est effectivement de démontrer que si l'architecte est capable de vivre l'inhabitable, peut-être que l'inhabitable n'est pas si inhabitable que ça. Par son action d'habiter, va prouver que l'inhabitable n'est peut-être pas si inhabitable. Et en y vivant, devenir voisin. Et donc c'est quand je suis devenue voisine que j'ai pu reparler d'architecture, mais sans en parler de manière technique, mais plutôt dans le quotidien.
Il y avait combien de maisons à réhabiliter ?
Il y avait 60 maisons, donc 250 habitants à peu près. Il y avait des grandes familles, parce qu'il y avait un fort bastion des gens du voyage qui s'étaient sédentarisés dans ces petites maisons. Et des anciens marins-pêcheurs retraités vivant tous un peu en dessous du seuil de pauvreté. Hein. C'était 300 euros de retraite par mois.
Il y a un film documentaire qui a été fait sur vous et les personnes qui habitent là-bas, à Boulogne-sur-Mer, dans ce quartier précis. On voit toute votre action pendant 3 ans. Et au début, ben, on sent pas mal de tension et pas mal de souffrance. On écoute un extrait ?
Allez, pour les premiers qui rentrent.
Alors, on est en train d'ouvrir la future cité de chantier, la maison commune. Ça, vous avez déjà pu le constater depuis quelques semaines. Elle va servir donc aux ouvriers d'abord. C'est une maison qui sera toujours ouverte pour vous. Maintenant, c'est ici aussi que vous pourrez venir taper, parce que je vais travailler ici. Donc, pour toutes vos questions, on sera là.
Alors, à vous, on attend parler.
Ceux qui sont ici.
Alors, il doit y avoir des problèmes. On les entend.
Non, mais c'est vrai, il y a tapage nocturne et tout brin, et voilà. Si c'est pour plus dormir, autant
les
que vous
insultes,
ici.
C'est plus comme au début quand je suis venu. Hein. Ça fait 33 ans que je suis là, et ben, ça a changé. Hein. Croyez-moi.
Le but, c'est quand même de lier ces enfants au projet. Et qu'à partir du moment. Et ces enfants, qui pour vous mettent des fois un peu le bazar, quand on les prend et qu'on fait des choses avec eux, ça peut marcher. Et c'est des gamins. Et donc, à un moment donné, moi, je ne peux pas être comme vous. Et ça, comprenez-le. C'est-à-dire que je suis ici aussi pour apporter autre chose.
Non.
Non, vous n'avez pas dit que ce sera la police.
Non.
Mais vous êtes prévenu avec les joueurs policiers. Non, pas la loi.
On n'arrête pas, là. Et puis, ils n'habitent même pas par ici. Moi, si ça continue, mon mari aura un fusil. Ce sera une balle dans la tête.
Voilà, alors on sent de la violence, mais rassurez-vous, au fil du temps passé avec eux, à les écouter, à les comprendre, puis à écouter comment ils veulent rénover, réhabiliter leur maison, eh bien ça s'apaise. C'est vrai qu'on va tout doucement vers un apaisement et un plaisir de travailler ensemble à la réhabilitation de chaque maison. Sophie Ricard.
Oui, et là, en plus, vous avez passé the extrait, là. Habiter, c'est la vie, effectivement, et on n'aime pas forcément son voisin.
Non, mais là, ils n'en peuvent plus des bruits de moto.
Voilà, mais c'est des voisins aussi. Mmh. C'est des enfants de voisins qui
toute
font du cross.
Journée, toute la journée, toute la nuit,
parce qu'effectivement, ouais, parce que beaucoup n'allaient pas à l'école aussi. Le chantier, c'est une valeur économique fabuleuse. Et effectivement, quand on sait que c'est un lieu d'enseignement aussi à ciel ouvert, là, puisqu'on a fait un chantier en site occupé, il n'y a pas eu d'opération tiroir. Tous les gens vivaient chez eux pendant le chantier. Et donc, tous ces gens avaient un savoir-faire. Et donc, l'acte d'habiter a permis aussi de comprendre les savoir-faire de chacun. Et pourquoi pas les faire participer et œuvrer tout le long du chantier.
Bah, on les voit travailler dans leur maison. Hein.
Exactement. Donc, on a monté un certain nombre de chantiers-écoles. Et là, on est face à... Il y avait deux clans dans cette petite rue.
Comment vous faites du lien à ce moment-là ?
Ben, on fait du lien par le fait, effectivement, d'ouvrir ce chantier à tous et de se dire, d'une part, on fait pas un projet pour 60 maisons, donc on n'uniformise pas. On a compris qu'il y avait des façons d'habiter très, très différentes. Il y a peut-être des vieux qui vivent avec leurs petits-enfants, il y a peut-être des familles monoparentales, il y a peut-être, voilà, l'expérimentation de la vie. La vie est expérimentale. Et donc, du coup, de faire en fonction des gens et des besoins permet déjà à tout le monde de se réapproprier son chez soi, et ça, c'est la base. Comment on veut être bien à l'extérieur si on peut pas déjà s'approprier son lieu de vie, son lieu de voilà, où on s'aime, où on fait l'amour, où on élève des enfants, où, etc., etc. Et donc ensuite, c'est effectivement d'ouvrir ce chantier au savoir-faire de chacun et qu'il puisse retrouver aussi un travail par le biais du chantier. Et donc quand un enfant des gens du voyage vient poser une fenêtre chez une ancienne famille de marins-pêcheurs et que la fenêtre n'est pas trop mal posée, peut-être que du coup, il y a un lien qui se recrée.
3 ans après, vous pouvez dire que ça a marché ?
Je peux dire que je suis architecte, donc j'ai fait quelque part ce que je devais faire, c'est que les gens ont chaud. Donc ça, c'est la base. Et on a peint et on
Elles
a fait...
Elles sont pleines de couleurs, voilà. Ces maisons.
On a demandé à tout le monde. Bah, évidemment, puisqu'on est arrivé, ils étaient délaissés par le premier bailleur social. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une réappropriation par chacun qui avait repeint sa façade différemment. On s'est dit, mais il faut révéler cet acte-là. Et donc continuer à les faire œuvrer dans ce sens-là.
Barthabas.
Ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air comme ça un peu, bordélique. Mais il faut savoir que ça, c'est des courants très importants. Parce que 90% de l'architecture d'aujourd'hui sont des descendants de Le Corbusier, quoi. C'est-à-dire, on admire Le Corbusier, on dit c'est magnifique et tout, mais Le Corbusier, c'était l'anti, ce qu'on vient d'entendre, quoi. C'est-à-dire que tout est conçu au millimètre près pour servir, mais il n'y a aucune marge d'interprétation pour l'habitant, quoi. Et on n'a pas abordé un domaine qui est assez important, c'est même dans le rapport à la nature aussi. Là, c'est le rapport entre les gens entre eux, mais le rapport de l'habitat par rapport à la nature, il est complètement à être repensé aussi. Moi, c'est drôle parce que je l'ai vécu de manière assez brutale il y a maintenant une quinzaine d'années. J'étais au fin fond de la Sibérie, à Irkoutsk, pour tourner Chaman. Et donc, je vais tourner avec des Yakouts. Et là-bas, il fait moins 70 degrés, comme on le sait en hiver, et très chaud en été aussi. Et eux vivent dans des yourtes, dans des tentes. Et là-bas, j'ai pu voir des immeubles entiers, des villes entières, un hôpital, etc., qui étaient complètement, le béton était explosé, fendu, parce qu'il y a des telles différences de température, c'était explosé. Et en fait, ça partait d'un bon sentiment, c'était l'époque soviétique, on voulait, pour aider les gens, leur construire un hôpital, des maisons correctes, chauffées, etc., à l'occidental, entre guillemets, quoi. Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas lutter contre la nature, quoi.
Une réaction, Sophie Ricard?
Bah oui, ce qu'il dit, c'est effectivement la problématique de la norme aujourd'hui, qui est plus mise à l'épreuve de l'homme, mais au service de la technique. Et du coup, elle annihile effectivement la vie. Elle annihile donc les éléments, elle annihile la nature. Et là, de décider que notre architecture est capable d'admettre l'imprévu, ça veut dire qu'effectivement, c'est pas une architecture finie, c'est une architecture qui va se transformer, qui va être réinterprétée à chaque fois en fonction de celui qui l'habite, qui l'occupe, etc. Et donc, les mots de Barthabas résonnent particulièrement avec ce dont j'ai envie de continuer à faire.
On sent qu'elle est animée, hein, Sophie Ricard, qu'elle a foi. Et puis vous y allez, vous vous opposez parfois, vous expliquez, vous justifiez, et vous êtes toujours là pendant 3 ans avec eux. C'est assez impressionnant à voir. Hein.
Bah, y a que celui qui n'y va pas, qui n'est pas critiqué. Donc
parce que vous n'êtes pas formé à ça, après tout.
Non, bah alors ça c'est pareil. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, Patrick m'a fait confiance. Il a vu que j'étais pas faite pour travailler en agence. Il a vu que j'étais pas faite pour rester derrière un ordinateur. Quand il m'a proposé Boulogne, j'ai dit je veux y aller, je veux faire ce truc. Il m'a dit Sophie, il faut que tu y habites, sinon on n'y arrivera pas. Et il m'a fait confiance. Qui aujourd'hui est capable de faire ça, une jeune architecte qui sort de l'école d'architecture, donc qui ne sait absolument pas construire, lui dire bah tu vas faire un projet de A à Z, toi Sophie là-bas. Peu d'architectes, je pense.
Il y a même un moment où il y a une petite dame qui aime bien venir vous voir, elle est très seule et on sent que vous lui offrez du thé et que vous discutez avec elle. Et vous sortez le bandoneon et vous chantez « Oh Bella Ciao » avec elle, c'est un moment très émouvant.
Moi j'aime beaucoup la musique aussi et c'est par le biais de la musique qu'on a pu échanger avec nos cultures différentes dans cette petite rue à Boulogne-sur-Mer. Donc c'est un véritable outil pour moi, l'instrument de musique et la musique pour faire passer plein de choses. Mmh. Et donc du coup ça a été, c'est des moments très très forts parce qu'ils jouaient pas de musique, hein, c'est des gens du voyage plutôt français depuis des générations mais qui sont pas forcément musiciens. Et du coup par la musique on a pu effectivement créer un échange très très fort. Et Bella Ciao parce que j'ai habité un an en Italie et que j'aime profondément l'Italie et j'aime profondément Bella Ciao, parce que c'est le chant des partisans.
Nous aussi, on aime. Vous pourriez nous chanter le refrain, juste le refrain.
Allez, c'est parti.
Si Jean-Pierre Drouet veut vous accompagner, il est le bienvenu.
Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata, ero trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir.
Bravo! Ouais, ça donne envie d'être un architecte nomade. Merci Sophie Ricard, on a découvert votre métier, de quoi je parle pour moi. Qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire votre aventure dans Pas de toi sans toi. Et puis on peut lire aussi le livre de Patrick Bouchain, Histoire de construire chez Actes Sud, avec les dessins, avec des photos, avec des textes, tout son parcours et tout ce qui le caractérise comme architecte aujourd'hui. Bon retour.
Merci beaucoup.
On va écouter une autre chanteuse, parce que vous l'êtes aussi, c'est Catherine Ringer. Elle sort un nouveau disque, Chronique et Fantaisie, c'est son deuxième disque solo depuis la mort de Fred Chichin. La chanson, c'est Un bien bel homme.
J'ai envie de toi.
Catherine Ringer, un bien bel homme, Bartabas. Il n'y a pas de lien entre la chanson et vous ? Si, bien sûr.
Ah bah si, on la connaît, on l'a déjà accueilli à Zingaro, d'ailleurs, ça fait il y a des années, oui.
Non mais moi je voulais faire un jeu de mots sur un bien bel homme. Alain Cavalier, ben voilà aussi un bien bel homme, Alain Cavalier. Il a fait un film qui s'intitule Le Caravage. C'est le cinéaste, bien sûr, de Thérèse, entre autres, et de Libérame. Et il vous a suivi pendant 10 ans avec sa petite caméra DV dans votre conversation quasi secrète avec l'animal, avec le cheval, Aubert Villiers. Il a bien voulu nous dire quelques mots. Il avait même très envie de vous faire un petit salut.
Bartabas, c'est 10 ans de... traverser tout Paris et aller le voir à Aubert Villiers le matin de bonne heure quand il montait le Caravage. Alors je filmais d'abord la palefrenière qui préparait pour que Bartabas puisse monter dessus. Elle qui le scellait. Hein. Et puis je filmais son exercice, ça durait une demi-heure. Et au début c'était épouvantable. Parce que j'étais en retard sur le cheval, j'étais pas à la bonne grosseur, il venait vers moi, je me dérobais, j'avais pas confiance en lui. Et puis petit à petit, il y a eu une espèce de jalousie, de l'accord entre Bartabas et son cheval. Je me suis dit, moi, ma caméra, c'est mon cheval, il faut que je fasse exactement comme lui, que j'arrive à une harmonie, à une détente et à un travail d'amélioration constante. Et il m'a fallu un temps fou. Et Bartabas, qui est cinéaste aussi, m'a aidé. C'est-à-dire dans les parcours qu'il faisait de son cheval au manège, il faisait ça pour varier les rapports avec la caméra. Et moi, j'étais toujours dans une position à peu près centrale. Et il faisait des espèces de fleurs autour de moi. Il me faisait des fleurs cinématographiques. Et le cheval, petit à petit, j'ai senti qu'il me voyait. Je faisais partie d'un trio qui avait son harmonie petit à petit. C'était le plaisir d'aller le voir et le plaisir de filmer, c'est tout. C'est que je ne savais pas si un jour ça serait un film ou pas. Et puis un jour, ce cheval est venu vers la caméra pendant que je filmais. Et a léché l'objectif au bout de 7, 8, 9 ans.
Il a léché l'objectif.
Et s'est roulé par terre devant moi. Donc, m'a fait une petite, un petit signe sentimental, amical, de complicité, que j'étais admis dans son univers. Et là, j'ai pensé que peut-être j'avais la fin d'un film, en fait. Et je me suis mis au travail avec un monteur magnifique qui s'appelle Emmanuel Manzano. Et on avait des heures et des heures et des années. Et, vous voyez, Bartabas grossir un petit peu, maigrir, ses cheveux, tout ça. Mais toujours avec le même cheval. C'est ça qui est extraordinaire. Toujours avec le même cheval. Qui avait un côté prime sautier malgré son âge, découvrant la vie. Et à chaque fois que Bartabas le montait, il avait une fraîcheur, une innocence d'enfant magnifique. Et moi, j'essayais de retrouver ça. Et un jour, j'ai pu dire à Bartabas, bon, écoute, je vais essayer d'en faire un film.
Il a léché l'objectif.
Il est émouvant, Alain Cavalier, quand il parle de ses 10 années. Quelle durée, 10 années, pour réussir à capter quelque chose de très intime, Bartabas et son cheval?
Oui, bah, c'est ça qui est extraordinaire avec Alain Cavalier, c'est que c'est quelqu'un qui a trouvé la liberté de son art, quoi. Son parcours, moi je reste baba, quoi, parce que c'est des gens que j'admire pas seulement pour évidemment leur talent, leur film que tout le monde connaît, quoi, mais c'est le parcours, quoi. Avoir commencé en filmant Alain Delon et Romy Schneider et terminer avec sa petite caméra à la main, entendre ces discours-là, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui, dans son domaine, a arrivé à affronter le problème du cinéma, qui est notamment l'argent, quoi, et tout ce qui est à côté, quoi. Donc il a viré petit à petit les producteurs, les décors, les comédiens, les costumes, ouais. Pour le finir. Et voilà, et maintenant c'est un écrivain qui écrit avec sa caméra, quoi. Et moi je reste bavard, je dis souvent c'est le plus jeune cinéaste français, hein. Parce que on en a entendu des discours autour de quand il y a eu l'avènement de la vidéo, de dire maintenant ça va devenir le fusain du peintre, on passe de la peinture à l'huile, au croquis, au fusain. Et il me racontait qu'un beau plan pour lui, c'est un plan qui commence bien, souvent il parle sur ses et il parle pas comme Agnès Varda que j'aime beaucoup aussi, mais qui est souvent en post-montage, qui parle par-dessus son image. Lui, il parle en direct, c'est-à-dire que s'il fait une faute d'élocution, s'il y a un autre truc, le plan est foutu, quoi.
Il en fait rarement, il s'exprime très bien.
Il ne monte pas. Il dit pour moi maintenant un beau plan, c'est celui qui commence bien, qui se déroule bien, qui finit bien. Je ne vais pas couper un plan parce qu'il est raté là pour le monter avec un autre, quoi. Pour en arriver là, je peux vous dire que c'est une vie, quoi. Ça a l'air de rien, mais.
Le Caravage, vous trouvez ce film facilement en DVD. On peut même l'acheter quand on vient voir votre spectacle, non?
Oui, entre autres. Oui.
Entre autres. Alors, il y a deux lieux essentiels pour vous, Bartabas Yazingaro, bien sûr, et puis il y a l'Académie équestre de Versailles que vous fondez en 2003, lieu réhabilité par votre ami Patrick Bouchain, on l'a entendu tout à l'heure. C'est un corps de ballet unique au monde, une sorte de compagnie-école où vivent ensemble les écuyers. Ils chantent, ils dansent, ils pratiquent l'escrime et le tir à l'arc japonais pour devenir de véritables cavaliers artistes. Alors, voici par Vinciane Lomonier une immersion au sein de la grande écurie de Versailles, juste en face du château. Nous sommes en compagnie de Laure Guillaume, écuyère titulaire.
Alors Laure, on est où là ?
Alors là, on est dans les grandes écuries du château de Versailles.
Qui sont des écuries d'époque ?
Oui, bien sûr, ce sont vraiment les écuries qui ont été construites par Mansart à l'époque... En même temps que la construction du château, d'ailleurs peu de temps après le château sous Louis XIV, complètement d'époque. Ensuite, tout a été restauré, toute cette idée comme ça de boxe en enfilade, ça a été l'idée de Patrick Bouchain qui a refait aussi le manège, en fait, qui a recréé l'âme de ces écuries et de ce manège à sa façon.
Et alors l'idée ici, c'est d'avoir un enseignement artistique assez multiple en fait.
Prend des cours de danse, de chant, d'escrime artistique, de kudo, c'est du tir à l'arc japonais, de pilates. Enfin, l'idée de base, c'est déjà un souhait de Bartabas de transmettre sa philosophie à la fois des chevaux, mais aussi de vie, tout simplement, parce qu'il faut savoir qu'ici, c'est aussi une grande école de vie. Comment faire un écuyer, un artiste, comment développer sa sensibilité artistique, tout ça, le mettre ensuite au service de l'émotion et de l'art équestre.
Ben là, je suis en train de finir son pansage, juste avant de le préparer pour aller le monter.
Vous appelez comment ?
Adrien. Je suis écuyer confirmé, donc ça fait 7 ans que je suis ici maintenant. Ce qui me plaît ici, c'est la relation du coup qu'on peut avoir avec les chevaux. On est au quotidien avec eux et on les garde assez longtemps au travail, donc on peut vraiment créer une complicité intéressante et un suivi, une évolution du travail sur le long terme. Donc ça, c'est intéressant.
Et en quoi est-ce que faire du chant, de la danse, du tir à l'arc japonais, ça vous aide ?
Ça aide dans le sens où on apprend à mieux se connaître. Toutes ces disciplines, ça révèle quand même qui on est profondément, quoi. Ça permet d'être peut-être plus entier dans ce qu'on fait ensuite avec les chevaux.
Alors là, on arrive devant le box d'un de vos partenaires, là, c'est Soulage.
Voilà, on est devant le box de Soulage, c'est mon vieux cheval, c'est mon compagnon. Ça fait très longtemps qu'on l'a, il est arrivé au Théâtre Zingaro, donc il était là avant la création de l'Académie. Et c'est vrai que moi, c'est mon cheval de solo depuis plus de 8 ans maintenant, et j'ai une énorme complicité avec ce cheval. Et Bartabas avait demandé à Pierre Soulage, si ça le gênait pas, qu'on nomme ce cheval Soulage.
Parce qu'il est tout noir, faut le dire.
Il est tout noir, voilà, exactement. Et donc il y a une belle histoire avec ce cheval, ouais.
Le spectacle, il reste quand même dans son essence le même, mais vous le faites évoluer.
C'est ça, en fait, le spectacle de l'Académie qu'on appelle La Voix de l'Écuyer, c'est notre histoire. C'est notre histoire avec le temps, donc l'évolution des chevaux, des gens, des aspirations artistiques du moment, des idées que peut avoir Bartabas, de choix musicaux ou de chevaux qui d'un coup arrivent et d'un coup on se dit tiens, ce cheval pourrait faire ci ou ça. Et donc c'est vraiment important et je pense que ça c'est aussi l'âme du spectacle, c'est arriver à montrer en spectacle que quand on se présente, qu'on fasse un carrousel qui soit très bien exécuté ou qu'on puisse faire un duo chanté qui soit vraiment tout à fait respectable, il y a vraiment une cohésion de groupe, il y a une bienveillance entre chacun, cette envie et ce bonheur qu'on a de se passer des rôles et d'être les uns avec les autres.
Je peux vous demander ce que vous faites là ? Vous êtes montée là sur un escabeau ?
Oui, je suis en train de lui faire une tresse de toupet pour le spectacle de demain.
Vous appelez comment ?
Charlotte. Je suis écuyère à l'Académie depuis 9 ans maintenant. C'est vraiment un lieu où j'arrive à m'épanouir, à me trouver. C'est vrai que le cheval m'apporte énormément dans ma relation à l'humain et dans ma relation à la vie tout court.
Qu'est-ce qu'il vous apporte de si important ?
Ben, le cheval aide quand même beaucoup à développer la patience et surtout l'écoute parce qu'il ne parle pas notre langue. Donc il faut trouver un moyen de communiquer avec lui et d'arriver à échanger finalement.
Redoubler sur la ligne du milieu. là, et vous allez faire volte individuelle vers moi. Allez bien jusqu'à la piste. C'est très bien, Perrine. Et récupère sur ta reine extérieure.
Qu'est-ce que ça fait de travailler comme ça dans un cadre aussi prestigieux ?
La première fois qu'on a débarqué nos chevaux et qu'ils sont venus comme ça fouler le sol en pavé, ça a été une émotion énorme. Et c'est vrai que c'est une chance inouïe, moi, le matin, quand je monte dans la carrière avec la vue sur le château. Et, c'est incroyable, on a un décor de rêve. Et puis on a la chance d'avoir accès au parc du château aussi. Donc on emmène nos chevaux en promenade dans le parc, on les emmène brouter.
Et vous, comment est-ce que vous définiriez un cheval ?
Bah, c'est plein de choses à la fois.
C'est un animal extrêmement généreux.
C'est un complice, c'est un ami, c'est...
Le cheval est un animal absolument merveilleux qui est...
Voilà. Un cheval, c'est ça, il coupe la parole, il est intègre, il est lui-même et...
Un cheval, il va toujours donner tout. La caractéristique principale du cheval, c'est la générosité. Ce qui est beau, du coup, en spectacle, c'est de pouvoir présenter cette relation qu'on a créée avec le cheval et du coup, mettre en œuvre cette générosité-là en spectacle.
C'est quelqu'un avec lequel on travaille.
C'est vraiment un compagnon.
C'est un animal...
Ça reste un animal avant tout.
Fantastique, quoi.
Qu'on apprécie pour ce qu'il est.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Ça vous fait quoi d'écouter ses élèves et cette écuyère titulaire, Laure Guillaume Bartabas ?
Il parle mieux que moi, c'est top.
Il parle mieux que vous. Vous pouvez faire le bilan maintenant. C'était en 2003, les tout débuts. Pour vous, elle est devenue quoi, cette académie ? Elle a fait naître quoi et qui ?
Pour moi, c'est une réussite absolue au-delà de nos espérances, hein, parce que ça aurait pu complètement foirer, parce que sans parler du résultat, j'allais dire, entre guillemets, artistique, qui est quelque part normal, quand on fait ça toute la journée, on finit par être bon, quoi. Mais je veux dire, c'est l'esprit de l'enseignement, quoi, parce que tout se passe en interne, comme elle l'a dit Laure très bien, c'est qu'à un moment, c'est aussi développer l'entraide à l'intérieur. C'est pas une école où il y a un concours, il n'y a pas de cursus. Alors, quand j'ai commencé à expliquer ça au ministère, je dis, voilà, je vais faire une école où il n'y a pas de cursus, où on n'a jamais fini d'apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut rester sa vie entière dans l'académie doit pouvoir y trouver sa place. Ça, il va passer d'écuyer débutant à professeur, voire directeur, plus tard, j'en sais rien. C'était ça le principe. On lâchait tout, comme ça on dit, on ne se donne aucune limite, quoi. Parce que le temps de transmission avec les chevaux est tellement long. Il faut 5, 6, 7 ans pour dresser un cheval, puis après, on dit des choses avec, quoi. Donc, ça peut pas se juger comme ça en un an, deux ans. Donc voilà, pas de cursus. Les élèves sont payés. Parce qu'il n'y a pas de bourse, et comme souvent le milieu du cheval est lié à l'argent, on veut retrouver souvent avec des gens qui ont le pauvre petit français qui n'a pas les moyens de pouvoir... Et comme c'est très difficile, parce qu'il commence très tôt le matin, enfin ça prend beaucoup d'heures et c'est fatigant, tu peux pas travailler le soir au resto pour payer ses études, quoi. Le soir, tu dors, quoi. Donc, enfin tout ça, c'est un mélange de choses qui fait que ça a donné des contraintes qui ont fait halluciner tout le monde dans les ministères, voilà. Ça a été très très intéressant au niveau pédagogique, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves qui ont quitté, hein, mais en fait, ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire une évaluation. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans une dynamique d'apprendre, il apprend, et tout d'un coup, malgré toutes les aides que tu lui donnes de professionnel, il y a un moment, il y a la limite qui se fait. Tout le monde n'est pas super doué, tout le monde n'y arrive pas, hélas, quoi. Et donc, tout d'un coup, cette personne-là voit les nouveaux qui arrivent et qui, en 2-3 ans, les rattrape. Et donc, d'eux-mêmes, tout d'un coup, ils s'en vont.
Ils trouvent du travail.
Ça, c'est intéressant. Alors après, ils font ça, c'est pareil, c'est pas le but. Chacun va s'épanouir dans son domaine. Après, il y en a qui vont enseigner, dans d'autres qui vont monter leur propre truc, il y en a qui vont travailler chez d'autres. Peu importe, mais l'idée, c'est quand même une compagnie école. Hein. C'est-à-dire que le but, c'est aussi de s'exprimer à l'intérieur de l'académie. C'est pas une maison de formation pour rentrer à Zingaro ou autre, quoi. Mmh.
Jean-Pierre Drouet, vous aussi, vous avez le droit de vous exprimer avec vos percussions tout autour de cette table. Si je vous dis le cheval,
je sais pas, on peut faire.
Voilà, il y a me pour l'homme cowboy. On va écouter Asaf Avidan, My Old Pain.
I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease.
too long ago. So honey, don't let go. Of what you know of me, I am dressed to kill. My old skin, save me from the same primordial sin that's deep within. Every time I'm hungry, waves come dancing in the sand. Please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go.
Dans un instant, les informations et puis tout de suite après, la suite du Grand Atelier. Barthabas, invité du Grand Atelier, qui lui aussi a voulu pas mal de monde autour de cette table. Vous allez m'aider à présenter ce parterre assez masculin, d'ailleurs, à commencer par Ernest Pignon. Ernest, bonjour.
Bonjour.
Barthabas, comment présentez-vous Ernest Pignon Ernest?
Voilà, là, c'est pareil, on ne présente plus Ernest Pignon Ernest, ça c'est clair. C'est pas à moi de le présenter.
Est-ce qu'il faut dire peintre? Est-ce qu'il faut dire plasticien? Vous voulez qu'on dise quoi d'ailleurs, Ernest Pignon Ernest?
Je sais pas, plasticien c'est tellement laid.
Oui, c'est pas très beau.
Alors, mais c'est vrai que c'est un problème de dire peintre alors que je fais pas de peinture. Mais...
Il a toujours du mal à définir.
J'évite ça, j'esquive.
Ce qui est génial, c'est qu'il est quand même dans un domaine qui est normalement le... Ce ne sont pas des arts éphémères, en général, la peinture. Or, lui, justement, c'est en ça aussi qui me passionne, c'est qu'il s'est confronté à la notion d'éphémère, et pareil, avec une ligne absolue, un peu comme Alain Cavalier, quoi, dans son genre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a décidé qu'il collerait ses originaux dans la rue, et donc il les donnait, quoi, c'est-à-dire qu'il affirme un geste qui, pour moi, a une valeur absolue, sans même parler de son talent, bon, Ernest Pignon Ernest, on le présente plus. Il se confronte au côté éphémère de l'art, et ça, il l'a tenu toute sa vie, quoi.
Je voudrais que vous nous présentiez les autres invités. À votre droite, il y a Carlos Semedo. Quelle est votre profession,
Carlos Semedo? Je suis directeur de la vie associative et des relations internationales à la mairie d'Aubervilliers. Donc je suis voisin de Barthabas depuis son arrivée même.
On parlera à la fois de vos fonctions et puis de votre connaissance du terrain à Aubervilliers. À côté de vous, il y a un monsieur qui porte un costume et une cravate, il est le seul autour de cette table. Félicitations, professeur.
Je peux peut-être l'enlever. Hein, si
mais non, soyez bien. Vous enseignez la biologie, vous enseignez quoi d'autre?
La microbiologie. Je suis enseignant-chercheur au Muséum des sciences naturelles et j'aimerais bien, comme enseignant ou quand je prends la plume, j'aimerais bien arriver à être conteur.
Mais vous y arrivez, je trouve, parce que vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » chez Actes Sud. Barthabas, pourquoi aviez-vous envie de vous entretenir et de nous présenter Carlos Semedo dans votre Grand Atelier?
Parce que voilà, c'est des gens qui sont sur le terrain, j'allais dire tout bêtement, quoi, qui sont confrontés à j'allais dire à la misère sociale, mais la difficulté de vivre des gens, quoi, au quotidien, quoi. Et le travail associatif, c'est quelque chose de très important dont on ne parle jamais parce que c'est pas politiquement très gratifiant, on va dire. On entend tellement, surtout au niveau politique, des discours complètement bidons, creux, qui regardent pas plus loin que le bout de leurs chaussures, quoi. Et puis il y a des gens qui assurent le boulot, j'allais dire, tout simplement. Donc pour moi, c'était important qu'ils soient là. C'est pas des gens qu'on entend souvent.
Si je reprenais ce que vient de dire juste là, Barthabas, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre l'homme, valoriser l'homme dans le pauvre et pas le pauvre dans l'homme. Et si on valorise ce qui est l'homme, la femme, enfin l'humain, dans chacun, qu'il soit pauvre ou riche, on décèle des trésors, mais il n'a pas souvent l'endroit, l'environnement qui lui permet de s'épanouir, de s'exprimer, d'exister, de sortir de l'humiliation sociale, qui est une chose qui est la pire inhibition dans la créativité de chacun.
Et vous en sentez beaucoup à Aubervilliers de l'humiliation sociale ?
À Aubervilliers, nous avons près de 500 d'associations dans tous les domaines, de la vie sociale, culturelle, économique, dans la formation professionnelle, dans l'humanitaire, dans toutes sortes de choses.
Environ 500, vous dites ?
Oui, actives, bien sûr. Ce qui, pour une ville pauvre, est quand même au-dessus de la moyenne, largement, parce qu'en général, les villes pauvres sont pauvres en vie associative. Elles ont plus de centres sociaux que de bistrots, elles sont plus de lieux organisés, institutionnels, que de spontanéité. Aubervilliers, ce n'est pas le cas. Donc nous avons beaucoup d'associations et nous avons une population pour environ 90 000 habitants, plus de 108 nationalités. Et ça en fait un laboratoire, un échantillon de la planète, un échantillon de la planète humaine.
C'est une des villes françaises où il y a le plus d'étrangers.
Exact. On a 38% de personnes qui ont une nationalité autre que française, et parmi les Français, 11% ne sont pas nés français, sont devenus en cours de vie. Et pour ceux qui sont français, ils ont sans doute quelques origines aussi qui les éloigneraient un peu du territoire hexagonal. Et c'est pour ça que la proximité de Barthabas est en écho permanent, ça résonne pour tout le monde, parce que lui aussi, il va chercher l'inspiration dans le monde entier. Ben nous, le monde entier est là aussi. Et donc, quand il évoque la Corée, ou le Népal, ou l'Andalousie, ou l'Asie centrale, il y a des gens en Aubervilliers qui ça résonne très directement.
Ils ont la possibilité de voir les spectacles de Barthabas ?
Oui, alors ça fait partie des avantages, des privilèges d'être voisin, d'être au premier balcon, c'est qu'il y a des tarifs de prix aussi qui favorisent. Par exemple, là, pour ce dernier spectacle, Ex Anima, nos enfants, et pas seulement les parents, etc., mais j'ai eu le privilège d'être parmi les premiers spectateurs toujours à assister dans Science Totale.
Alors, on a mis dans le milieu culturel, il est de bon don de se déplacer à l'autre bout du monde pour aller voir la première d'un tel. Ah, j'ai été voir à Moscou la première d'un spectacle qui va jouer à Paris 15 jours après, quoi. Et nous, on a mis un point d'honneur depuis déjà maintenant 20 ans. Les premiers au monde à découvrir le spectacle de Zingaro, c'est les associations d'Aubervilliers et du 9-3 d'ailleurs, et les enfants, quoi. Alors ça nous sert aussi de test important pour voir, parce que c'est un public entre guillemets difficile, parce que justement pas poli, habitué au code du théâtre. Donc pour nous, c'est un pied, quoi, de dire que les premiers gens au monde, avant même les directeurs culturels, c'est les gamins du 9-3 et les gens des associations qui ont pu y assister. Donc non seulement ils assistent au spectacle, mais en plus avant les autres, quoi.
Vous, cette ville, vous la sentez comment? Vous la respirez comment, si je puis dire, Barthabas, Aubervilliers? Vous la connaissez depuis tellement d'années maintenant.
Bah, c'est particulier, hein, parce que nous, notre coin autour, c'est hélas, on voit quand même partir pas mal de liens, quoi. Hein, voilà, il y avait une auto-école juste en face, il y avait un traiteur, il y avait deux boulangeries, tout ça, ça a disparu, quoi.
Elle se vide?
Donc, ouais, elles se vident et elles se remplissent de pizza pour le prix d'une, quoi. Et donc ça, c'est un petit peu difficile, quoi. Moi, je pense que le rapport avec l'extérieur par rapport à l'acte artistique doit être très franc. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour faire des statistiques, aller faire des démarches auprès des associations. Par exemple, moi, mes enfants étaient à l'école à Aubervilliers. Bon, bah, ça arrivait régulièrement que le professeur de la classe dit, tiens, on voudrait visiter là où vit Hugo ou Manolo, votre fils, etc. Et donc, ils étaient invités. Mais c'est eux qui font la démarche. C'est très important cette respectabilité dans les deux sens. Il faut pas assister les gens dans les deux sens. C'est-à-dire que si quelqu'un veut demain rentrer dans, entre guillemets, l'intimité de Zingaro, dans la manière du possible, on va dire oui, mais s'il en fait la demande. C'est-à-dire, si quelqu'un vient frapper, on dit, tiens, on a telle association, on aimerait leur faire visiter où vous vivez, ou les écuries, oui. Mais c'est pas nous qui allons faire des démarches avec tout le monde pour faire des statistiques et dire, regardez. Cette notion-là est, à mon avis, très importante, parce que le respect des deux côtés, quoi.
Ernest Pignon-Ernest, vous connaissez cette ville d'Aubervilliers?
Oh ben, je crois que je fréquente depuis des années. J'ai dû faire des affiches pour Barthabas il y a déjà au moins 20 ans, probablement, non? Plus de 20 ans.
Donc vous avez eu l'occasion de parcourir la ville?
Bah, Oui, 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 je connais Aubervilliers. J'ai même mis un décor au Théâtre de la Commune en 1968 ou 69, vous voyez. J'ai fréquenté le Théâtre de la Commune quand c'était déjà Gabriel Garand à sa création. Quoi.
Mais vous n'avez pas encore collé de dessin de vous, de représentation d'un poète
non,
sur des murs.
Non, parce que mes originaux... ce sont pas mes dessins, ce sont les lieux eux-mêmes que je viens un peu exalter en glissant un dessin. Et j'ai travaillé sur des banlieues, j'ai travaillé sur des villes un peu marginalisées, mais pas sur Aubervilliers. Je l'ai pas fait, non.
Qu'est-ce que vous pourriez faire là-bas?
Un dessin de moi avec mon frison qui est sur la porte du théâtre en bois.
Ah oui, depuis des années. Là, il fait corps avec
son petit à petit en train de disparaître dans le bois.
Il fait corps avec Zingaro, avec le cheval que j'avais dessiné dans le livre de poèmes d'André Walter. Pardon,
je vous ai pas posé de question. Je voulais juste savoir quel était votre lien depuis 20 ans avec Bartabas, Ernest Mignon-Ernest.
Il est très profond. C'est pas seulement parce que je fréquente le lieu que je suis associé au matériel, puisque le mot Zingaro, tout ça, c'est mon écriture. J'ai essayé de trouver une écriture qui corresponde, ou qui, il y a un rythme et une espèce de rigueur en même temps. Vous savez, je me suis rendu compte, j'avais quelque chose de très fort en commun. Nous avons eu, Bartabas et moi, le privilège de visiter la grotte Chauvet, ensemble.
Oui, c'en est un.
Et ce qui se passe là-bas, ce que nous proposent les chevaux de la grotte Chauvet, c'est ce que nous proposent les spectacles de Bartabas. Il y a quelque chose de cet ordre. Ça affirme quelque chose dans le temps, l'humanité. L'humanité des animaux, si on peut dire, vous voyez, et la présence des hommes, parce que quand on est là-bas, on est obligé de penser à ceux qui l'ont dessiné il y a 34 000 ans. Vous voyez, ça nous inscrit dans le temps d'une façon très particulière, essentielle, comme ce qu'il se passe dans son travail, dans cette espèce d'épure que représente son travail. Et en même temps, on ne sait pas à quoi il correspond, on comprend qu'il y a une quête de sacré. Là-bas, vous voyez? Et c'est ce qui se passe dans ce spectacle. Il y a à la fois une grande sensualité du corps, les animaux, le charnel, c'est très charnel. Et en même temps, on sent toujours comme un cérémonial ce besoin que nous avons de sacrer en nous inscrivant dans le temps de cette manière. C'est ce qui est toujours dans ce spectacle. Et là, de plus en plus, quoi. Vraiment,
particulièrement dans Ex Anima, effectivement. Est-ce que le sacré est important aussi quand vous allez déposer l'empreinte d'un de vos dessins qui est la plupart du temps un grand poète, que ce soit Mahmoud Darwish à Ramallah, que ce soit Jean Genet sur les docks de Brest? On peut citer à l'infini vos démarches et vos gestes.
C'est ce rapport une espèce de rapport au temps. Vous savez, c'est ce sacré qui est la conscience de ce qui nous a précédé, de ce qui va nous suivre. C'est cette façon de s'inscrire dans le temps. C'est un sacré laïque, comme ça. Et mes images ont un peu cette caractéristique en ce sens-là, pour faire un raccourci, c'est que le fait qu'elles soient grandeur nature, c'est comme des empreintes. La référence, ce serait le suaire. Parce que dans une empreinte, il y a cette idée qu'il y a eu une présence, et qu'elle n'y est plus, qu'il y a une absence. C'est très dialectique, quoi. Et c'est, vous voyez, c'est comme des pas dans le sable. Et il y a cette dimension. Mettons, comme vous le citez, l'image de Mahmoud Darwish à travers la Palestine dit à la fois la légitimité de sa présence et son exil permanent. Mes images essaient d'exprimer ça.
Bartabas, quelle image ou quelles images d'Ernest Pignon-Ernest vous ont le plus marqué?
Toutes, on travaille
les Rimbaud à Charleville-Mézières, les...
Oui, bon, il y a les très connus. Bon, évidemment, tout le travail à Naples, je veux dire, bon, ça c'est... moi, je suis un grand admirateur de Pasolini, en plus, alors lui aussi.
Mais là, je viens de faire un travail sur la mort de Pasolini. Mais...
Tout son travail, sa démarche est extraordinaire, quoi, parce que maintenant, c'est de très bon goût de faire des choses dans la rue, etc. Mais c'est quand même le premier qui l'a fait, il ne faut jamais oublier de le dire. Quoi. C'est quand même important. Quoi.
À aller coller la nuit, très discrètement.
Ça, c'est un grand plaisir.
Pour éviter les soucis.
C'est un grand plaisir.
D'autant plus que vous avez le vertige quand vous montez sur votre escabeau.
Oui, vous avez vu.
Non, puis, ce qui est intéressant aussi, là, c'est plus concret, c'est comment l'œuvre vit. Dit, elle disparaît, il y a la trace, mais avant qu'elle disparaisse, il y a tout un temps. Et moi, j'adore ça, quoi. C'est-à-dire que tu vois l'œuvre vieillir, parce que bon, c'est du papier collé sur de la pierre, souvent, ou un autre élément. Et donc, ça réagit au temps, la notion, ce qu'on disait aussi, de s'adapter aussi, ces discours qu'on a fait tout à l'heure sur l'architecture aussi, comment l'art s'adapte aussi à la nature, tout simplement. Donc, il disparaît, comme tout, il se transforme, il disparaît, quoi. Et sous le regard des humains, sous le regard des spectateurs de la rue, quoi. Et ça, c'est très, très intéressant, parce que c'est un art en mouvement, quelque part.
C'est-à-dire que mon matériau, c'est ce que nous partageons. Quand on partage la ville, on partage du temps, on partage de l'espace, on partage du symbolique. Et donc, ma palette, c'est ce que nous partageons avec les gens.
Ça vous inspire quelque chose, Jean-Pierre Drouin ? Jean-Pierre Drouet, musicien contemporain, percussionniste, ami de Bartabas. Il fait partie des invités du grand atelier de Bartabas. On va se retrouver. Je vais remercier Ernest Pignon. Ernest, d'être passé nous voir dans cette émission. Merci. Collez bien, faites de belles empreintes et on continue de vous suivre. Merci, monsieur Carlos Semedo, d'avoir quitté Aubervilliers pour venir nous dire bonjour.
If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
Karen Dalton, Little Bit of Rain. On va rencontrer Bartabas, un biologiste français naturaliste qui enseigne, on le disait, Marc-André Selosz, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et à l'Université de Gdansk, que vous avez écrit chez Actes Sud, Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Et vous avez aimé ce livre, Bartabas? Vous avez aimé apprendre des choses sur les microbes qui ne sont pas forcément des choses dégoûtantes?
Oui, mais c'est pas seulement la raison, c'est que je ne connais pas ce monsieur qui est arrivé avec une cravate. Pour moi, c'était un grand plaisir de l'émission parce que j'avais envie de le rencontrer. On est dans un siècle où tout le monde a accès à la parole, donc tout le monde donne son avis sur tout. Et ce monsieur m'a fasciné. Je l'ai entendu une fois à la radio et je dois dire, j'étais sur mon cul et j'ai dit, voilà, c'est intéressant que la parole soit donnée à des gens. C'est un scientifique. Et qui sait de quoi il parle, quoi. Et en plus, son bouquin est assez génial parce que je trouve qu'il réhabilite. Enfin, on parlait tout à l'heure de vivre comment l'homme peut vivre en accord avec lui-même dans son habitat, dans la nature. Et qu'est-ce qu'on appelle la nature ? Moi, qui travaille avec des chevaux, bon, évidemment, je suis confronté à déjà l'animal, quoi. Et on se rend compte, en fait, on est seulement au début de la découverte de comment tout vit autour de nous, quoi. Bientôt, on va nous expliquer comment les pierres communiquent entre elles, quoi. Et ça, je trouve ça fascinant parce que tout d'un coup, on se rend compte que nous, on pense qu'on est capable de tout organiser, nous, l'être humain, quoi. Et on s'aperçoit qu'en fait, jusqu'au dernier petit microbe et au dernier petit champignon, ils sont peut-être bien mieux organisés que nous, quoi. Et ça, je trouve ça un gouffre pour moi de connaissances fascinant, quoi.
N'ayons pas systématiquement peur des microbes, Marc-André Solos.
Il faut avoir une peur mesurée et de la nuance. Et effectivement, ils contribuent à nous. On parle d'organisation, d'être organisé, d'organiser. En fait, ils nous organisent et une bonne partie de notre fonctionnement ordinaire, de notre santé, de notre nutrition, voire même de nos plaisirs, sont liés à la présence de microbes au fond de nous.
Par exemple, un plaisir.
Certains arômes, par exemple, le Sauvignon. L'arôme d'un verre de Sauvignon, eh bien, cet arôme très particulier à ce cépage, eh bien, il est lié à des bactéries qu'on a dans la bouche et qui libèrent des précurseurs d'arômes et qui, justement, nous font ce goût-là. Mais c'est une anecdote. Et en fait, derrière aussi les plantes ou tout un tas de pratiques civilisationnelles se cache une couche microbienne. Alors, moi, je suis très ému d'être là pour plein de raisons. Mais une, déjà, c'est que je suis pas un écrivain. Pendant 30 ans, j'ai accumulé des petites histoires, des compréhensions du monde. Et j'ai vraiment voulu les raconter. Et c'est, pour moi, c'est toujours une émotion énorme quand je rencontre quelqu'un qui a passé du temps avec moi, que j'ai pas toujours la chance de rencontrer. Là, je l'ai. Et je me sens tout petit devant le temps que j'ai piqué à la personne. Mais en même temps, je suis extrêmement excité parce que, voilà, il y a quelque chose là qu'ont compris les scientifiques aujourd'hui. Enfin, qu'ils croient avoir compris, en tout cas, et qu'ils doivent partager, c'est que le monde est construit par des microbes, et alors aussi que dans les interactions entre les espèces, il y a des choses qui se passent à bénéfice réciproque. C'est-à-dire que ces microbes, nous les aidons, nous les nourrissons, et ils nous protègent, ou ils nous aident à nous nourrir, ou ils aident, dans l'enfance par exemple, au développement du système nerveux, enfin c'est des choses prodigieuses, mais c'est de l'entraide. Tout n'est pas que compétition.
Quand on respire, on a besoin de microbes?
Ça va jusque-là. En fait, les petites particules au fond de nos cellules qui assurent la respiration sont des bactéries qui vivent au fond de ces cellules, des cellules de nos ancêtres, depuis des générations et des générations. C'est une histoire qui a plus d'un milliard d'années. L'ancêtre qui a acquis ces bactéries qui lui permettaient de respirer, il ne devait pas ressembler du tout à un animal, hein, ni à un cheval, ni à un homme, pour le coup. Mais effectivement, on est construit par ça jusque dans une fonction comme la respiration, oui. Et alors ces bactéries-là, quand on en a un millier par cellule, sont nettement plus nombreuses que nos propres cellules.
Et c'est touchant parce qu'il y a Ernest Pignon-Ernest qui est resté, qui voulait vous entendre. Et vous semblez fasciné par ce que vous découvrez, peut-être.
Ah, complètement, parce que la richesse des choses, ce n'est pas les choses elles-mêmes, ce sont les relations qui se nouent entre elles. Quoi. Voilà.
Et oui, là, c'est le programme d'une certaine biologie moderne qui dit « Non, il n'y a pas d'organisme, il n'y a que des relations entre les organismes. » Et effectivement, la science est en train de trouver un truc que peut-être, d'ailleurs, un certain nombre de démarches artistiques avaient trouvé avant. Hein.
Vous parlez aussi très bien de la nature, on en parlait un instant avec Bartabas, quand vous racontez les arbres et les champignons au pied des arbres, tout cela se rend service, Marc-André Solos.
Ah oui, alors j'en parle vers le début du livre, parce que c'est un peu, c'est ce sur quoi mes équipes de recherche travaillent. Et effectivement, on travaille sur ces champignons qui aident les arbres à exploiter le sol. Tant et si bien d'ailleurs que les arbres peuvent pas se développer sans eux. Mais on le sait pas parce qu'en fait, ces champignons étant partout dans tous les sols, la moindre graine qui arrive finit par les trouver. Les plantes ne se nourrissent pas sans eux et eux d'ailleurs ne se nourrissent pas non plus sans les plantes. Pour donner un nom, les truffes, par exemple, sont parmi ces champignons. On sait bien que pour obtenir des truffes, il faut planter des chênes truffiers et que la truffe se développe ensuite sur leurs racines. Cette interaction-là, elle est vitale parce que pas d'arbres sans champignons, et vice-versa du reste.
Mais pas de vin sans bactéries et sans microbes.
Pas de vin, pas de fromage, pas de choux, pas de chocolat, pas de café, tout ça c'est fermenté. Enfin, pas de choucroute, je veux dire, pour le chou. on n'en finirait pas. Et puis alors, quand on va faire un tour dans les cuisines exotiques, le poisson fermenté, le soja fermenté au Japon, c'est des choses absolument délicieuses. Il faut franchir le pas, bien sûr, mais c'est y a là une richesse culturelle aussi qui passe par des microbes. Et ces aliments, historiquement, on les aurait pas digérés sans microbes. Maintenant, évidemment, on est tolérant au lactose qu'il y a dans le lait. Maintenant, on a des choux qui se peuvent se manger crus. Mais historiquement, nos ancêtres, ces aliments, ils les auraient pas adoptés s'ils n'avaient pas aidé de microbes pour retirer les toxines dedans.
Et un cheval de Bartabas, pareil, hein. Il pourrait pas digérer s'il avait pas ses bactéries.
Oui, il y a quelques détails croustillants dans le livre d'ailleurs, dont j'aimerais bien avoir la confirmation parce que, alors effectivement, ils sont aidés par des bactéries qu'ils ont dans l'intestin, dans une espèce de poche volumineuse qu'on appelle le cécum, et ça les aide beaucoup à digérer certains aliments qu'ils n'ont pas pu digérer eux-mêmes, et c'est une source majeure de vitamines qu'ils ne trouvent pas directement dans l'alimentation. Et on dit que les plus jeunes chevaux, enfin certains physiologistes rapportent ça, les plus jeunes chevaux mangent les crottes des adultes pour s'infecter justement de ces microbes.
Moi je l'ai parfois observé, mais je ne savais pas que ça servait à ça.
Alors en fait, tous les animaux ne peuvent pas faire ça, et nous, il ne faut surtout pas faire ça nous-mêmes. Hein, d'accord. Mais il y a beaucoup d'espèces animales qui effectivement vont chercher un complément de microbes dans les fesses des autres. Ça arrive aux lapins aussi, hein, qui a des crottes spéciales, toutes molles, qui mangent directement et qui sont de la pure
bactérie. Je sens que Bartabas est rassuré, il souffle.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est comment il explique aussi comment les plantes communiquent entre elles, en fait, par les racines, donc par les champignons. Quoi. Ça, c'est passionnant, parce que tu t'aperçois que... La plante qui donne un signal pour se défendre de l'animal qui la bouffe plusieurs kilomètres plus loin, quoi. En fait, par ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Quoi.
Vous dites aussi que les microbes construisent les plantes, les animaux, mais les civilisations aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire deux choses. Il y a une bonne nouvelle qui est que, historiquement, quand on s'est sédentarisé, qu'on a commencé à manger beaucoup de céréales, boire du lait, ces aliments n'étaient pas forcément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, comestibles pour nous. Nos ancêtres ne digéraient pas le lactose, du coup le lait leur donnait la diarrhée, hein, disons-le. Et en faisant du fromage ou du yaourt, bah, les bactéries digérant le lactose, ils ont pu avoir accès au lait. Les olives, c'est pareil. Le soja, qui est important en Orient, c'est la même chose. Les céréales contiennent des phytates qui sont toxiques, les céréales sauvages. Donc on ne peut pas passer au blé ou au riz sans faire, par exemple, avec du levain, des décompositions microbiennes, des toxines. Aujourd'hui, on a un peu oublié ça parce qu'on a des céréales qu'on a sélectionnées qui sont plus toxiques. Et notre alimentation moderne, elle est née avec l'accompagnement de microbes. C'est les microbes qui nous ont préparés au néolithique, cette phase où on est devenu agriculteur-éleveur. Et puis, il y a de mauvaises nouvelles. C'est qu'il y a beaucoup de conflits civilisationnels qui ne se sont pas réglés à coups d'épée ou à coups de fusil. Quand nous sommes arrivés en Amérique, nous sommes arrivés avec des maladies avec lesquelles nous avions évolué et qui faisaient encore des dégâts, mais pas des gros dégâts. Nous sommes arrivés avec la tuberculose, la rougeole, les oreillons, et nous avons collé ces maladies-là, sans le vouloir, aux Amérindiens. 100 millions de morts en Amérique du Sud, 50 millions en Amérique centrale, pratiquement une dizaine de millions en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord qui chute d'une dizaine de millions d'habitants à, colons compris, moins de 500 000 au milieu du 19e siècle. Et en fait, dans ce conflit civilisationnel entre l'Europe et l'Amérique, eh bien, c'est les microbes qui ont sonné le glas des uns et permis le remplacement par les autres.
Est-ce qu'on est suffisamment exposé aux microbes ?
Ben ça, c'est la leçon qu'on essaie de tirer dans ce livre. C'est ce que j'appelle la saleté propre. Il y a un degré de contamination qui nous permet d'être plus sûrement protégés des maladies et dans l'enfance, de développer mieux le système immunitaire, le système nerveux. Vous savez que des maladies comme l'autisme ou les maladies auto-immunes ou l'asthme ou les allergies en général, l'obésité également, sont des maladies qui ont une dimension microbienne. Et on pense aujourd'hui qu'une exposition insuffisante à des microbes variés sur la peau, dans l'intestin, dans l'enfance, conduit précisément à l'explosion moderne de ces maladies. J'entendais au début de l'émission cette idée de prendre en compte les impératifs de la nature et le milieu, mais c'en est un, c'est un impératif tout petit mais qui est là partout. Et il faut reprendre la dimension de ça, reprendre la dimension de ce côté organique que nous avons nous autres produit de la nature. Il faut reprendre cette dimension et se réconcilier avec la nature, notamment sa fraction microbienne.
Bartabas.
Oh, ça va, dans ma caravane j'ai pas mal de microbes, moi j'essaie de pas trop nettoyer.
Vous les entretenez?
Oui, ça entretient mon immunité.
Et vous êtes en pleine forme. Un autre commentaire, Ernest Pignon-Ernest? Ou romanesque?
Non, là je suis bouche belle, je suis vrai. Non, vraiment.
Jean-Pierre Drouet, les bactéries en musique, c'est possible?
Attention.
Vie et mort d'un microbe, vous ignoriez ce son-là, hein, des microbes, Marc-André Solos.
Moi, je vais peut-être pouvoir le réutiliser pour mes cours. Mais...
vous allez tout, c'est drôle, il faut le voir, quoi. Comme il est là avec son mauvais ressort et son petit pipeau dans la bouche, là, il sort des sons incroyables.
Ah oui, il a des instruments partout autour de la table.
Improbable, effectivement.
Marc-André Solos, vous allez écrire toute votre vie sur les microbes.
Ben, il faut quand même prendre la plume que quand on a quelque chose à raconter. Là, ça m'a quand même mis 25 ans à trouver la matière de ça, donc faut peut-être pas recommencer tout de suite dans 25 ans.
Bon, eh bien, on s'apprend pas 25 ans à lire. Ça prend du temps parce que c'est un récit assez savant, mais on le lit avec plaisir. Ça s'intitule « Jamais seul ». L'auteur Marc-André Solos est paru chez Actes Sud. Merci, monsieur le professeur.
Merci.
On écoute Mélanie de Biasio, « Your freedom is the end of me ».
Twisted sick, but I'm on the floor. come rescue me. Tears in blood, but oh how they flow. Reasons bleeding, tell me no more, get into me. I should have gave the leash to your soul, but now I've lost control. And then you wander aimlessly. For you that freedom's your goal, but I'm telling you, your freedom is the end of me.
Bien qu'on retourne dans votre caravane, Bartabas, parce que c'est là qu'on a rencontré ensemble un jeune chef français. Il dirige la Grenouillère à la Madeleine sous Montreuil, qui dépend de Montreuil-sur-Mer, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est un jeune homme, hein, il a 38 ans.
2 étoiles déjà.
Très très grand chef. Hein. Vous avez déjeuné et dîné chez lui.
Oui, oui, c'est un phénomène.
Voilà, c'est toi. Bon. Dans ma caravane, non?
Oui.
Je t'ai fait une petite salade de frites, tout. J'ai soigné, j'ai dit putain, je reçois un chef, alors j'ai fait des petits effets de.
Attends, j'étais à la boulangerie et tout, hein. Tout peut bien.
Rentrez.
Merci.
C'est incroyable d'être ici.
La donc, caravane.
Caravane. Pourquoi tu l'appelles Carlo? Mon Carlo, c'est le nom de.
C'est le diminutif d'une caravane, quoi.
Ah ouais?
Une verdine, ça peut dire plein de trucs, tout ce que tu veux.
Combien de temps que tu vis ici, Vertex?
Oula, bah ça va faire, je sais pas, plus de 20 ans. Celle-là, elle doit avoir, cette caravane-là, elle doit avoir plus de 20 ans. Enfin, elle est des années 50. C'est une Assomption. C'était près de Rennes, en fait, ils faisaient ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'elle a des formes, que des rondeurs, tout est en rondeur, quoi. Et en fait, parce qu'à l'époque, ils copiaient les formes des Cadillacs, des voitures américaines. Mais ce qui est drôle, c'est que les phares, c'est des phares de DS, en fait. Et voilà, donc on a refait tout l'intérieur. Il y a quand même la chambre qui est d'origine en fait.
Super, avec la marqueterie. Parce que non, c'est la baignoire.
Ah, ah oui.
C'est un guérisseur du fin fond de la France qui m'a appris ça. C'est il y a très très longtemps déjà, il y a plus de 20 ans. J'avais des gros problèmes de dos. J'étais à deux doigts de me faire opérer. Et alors à chaque fois que j'allais voir un spécialiste, il me disait bah, vous avec votre métier, c'est pas étonnant, etc. Et puis c'est Riton qui m'a emmené voir un mec au fin fond de la France avec les clients qui avaient tous des poules sur les genoux et tout. Et le mec il me connaissait ni Dave ni Adam, donc il avait aucun a priori. Quand ça me voit, il fait, oh, votre truc, c'est pas grave, clac, clac, clac. Il dit, vous faites quoi comme métier? Je dis, bah, je monte à cheval. Il dit, ah, bah oui, donc vous n'avez pas le temps de vous échauffer, évidemment, le matin tôt. Il dit, donc je vous conseille un truc. Le premier truc que vous faites de la journée, le premier, avant de prendre un café, vous vous levez, vous mettez dans un bain chaud. Et effectivement, je fais ça depuis plus de 20 ans. Je prends un bain chaud tous les matins avant de monter à cheval. Ça te décontracte tous les muscles du dos. Tu travailles pas sur des contractions musculaires, quoi. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une baignoire dans ma caravane.
Je pense que tout le monde rêverait de vivre ici. Parce que c'est,
chez vous, c'est pas mal aussi, il y a des huttes.
Oui, il y a des huttes, on a des... ça s'est mis enterré. C'est moins en courbe, moins de couleurs aussi.
C'est drôle de se dire que c'est l'habitat d'ailleurs et l'architecture qui vous a réuni au départ, puisque Patrick Bouchain réalise l'habitat, l'habitation, la structure de Zingaro ici à Aubervilliers, et puis il rénove la Grenouillère quand vous reprenez l'affaire de votre père.
Oui, c'est ça.
Le lieu, c'était un lieu quasi historique que vous avez voulu contemporain, vous avez mêlé un peu les deux.
Bah, c'est tout à fait ça, c'est toute une maison qui prenait le risque de devenir folklorique, parce que justement, quand il y a trop de traditions, quand il y a trop d'histoires du passé, avec un nom comme ça, la Grenouillère, avec des grenouilles partout dans les marais, on prenait vraiment le risque de devenir une adresse folklorique avec des plats traditionnels et de jamais s'en sortir, quoi. Et Patrick a réussi. On a tourné le sens le restaurant, il était tourné sur une cour et sur la Canche, qui est le petit fleuve qui passe devant. On l'a tourné sur le jardin, sur les remparts de Montreuil, donc de Vauban, qui ont toujours été là, qui les gens ont découvert, alors que on les a pas construits. Et puis être dans un espace, dans une sorte de cohérence avec ce que je suis et ce que surtout le lieu nous offre. Et d'emmener cette maison du 17e, 18e, à quasiment totalement dans le 21e siècle. Et je pense même d'être capable de faire que, comme cette Carlo de Martex, soit intemporel. Parce que
je précise que Martex, c'est le surnom de Bartabas, ou ouais. On peut dire ça, c'est votre surnom.
Oui.
Ça vient d'où, Martex?
J'en sais rien, c'est un peu un hasard comme ça. C'est
une marque
de soutien-gorge, je crois.
Monsieur est connaisseur.
Monsieur connaisseur, voilà. Ce qui est drôle, c'est que nous, on est aussi au pied des remparts, hein, puisqu'on est devant le fort d'Aubervilliers, Donc, vous voyez, il y a une petite similitude aussi, géographique.
Quand vous avez rencontré ce chef ici présent, étoilé.
En fait, j'ai rencontré par
Alexandre Gauthier
et par le théâtre, parce que en fait, on s'est rencontré pour la première fois à Calais. Enfin, on jouait avec Calacas à Calais et il m'a été présenté par Francis Peduzzi, qui est directeur du Chanel. Voilà, et ils étaient venus avec toute leur équipe voir le spectacle.
Donc, une scène nationale.
Une scène nationale à Calais. Donc, on jouait là-bas. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on a été vivre une expérience culinaire chez monsieur.
Je veux pas révolutionner la cuisine française, je fais ce que je suis. Vous venez manger, je vous accueille dans ma maison, je suis ma maison, et je cuisine ce que je suis avec les autres.
Vous en parleriez comment?
Là, c'est vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment un artiste dans le sens où pour moi, c'est une expérience artistique. Quoi. Je le mets au même titre que d'aller voir un spectacle, d'assister à un concert.
Casser les codes de la gastronomie traditionnelle, c'est le style d'Alexandre Gauthier, chef du restaurant La Grenouillère. Ce qu'il aime, associer deux ou trois produits, des herbes, pour une explosion en bouche.
La Grenouillère n'est pas une cuisine du quotidien. Il y a beaucoup de cuisiniers qui travaillent là-dessus. On est tout le temps en recherche, tout le temps en mouvement. Et voilà, et après, on propose comme ça les clients. Alors, ces plats, c'est pas entrée plat dessert. Ça peut être entrée plat dessert. Mais tout ça, ce sont des plats qui se mettent dans un menu, qui montent crescendo, qui sont écrits entre 8 et 12 services avec des montées, des petites ruptures, et ça monte crescendo.
Moi, c'est ce que j'essaye de faire un peu à Zingaro aussi, hein. C'est-à-dire que ça doit dépasser le cadre d'une narration. C'est quelque chose qui te touche par l'odeur, par le dépaysement, par le cérémonial pour y arriver, enfin, etc. Par ce que tu as vécu, quoi. Tu ressors, il y a le feu dehors, enfin bon. C'est une expérience un peu totale, j'allais dire. Et moi, j'ai retrouvé ça chez lui. Ça m'a beaucoup marqué, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est là pour lui envoyer des fleurs, mais tu peux plus manger dans un restaurant après.
Ça vous convient? Ça doit vous flatter d'abord, mais ensuite, vous l'envisagez comme ça?
On accompagne nos clients et on essaye de les amener, surtout limite, pas vraiment les amener, surtout d'être décrochés, quoi. Les décrocher d'un quotidien, d'une vie, d'être capable de pas prendre son téléphone portable, d'être juste là, concentré sur le moment.
Mais ça, vous supportez pas les téléphones portables quand on dîne, hein?
Non, c'est pas ça, non, pas du tout. Ce qui est assez compliqué, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté, à des réseaux sociaux, et donc personne n'est dans l'instant. Bah, ils sont dans un instant de connexion, mais jamais dans l'instant de l'autre, comme c'est ce moment qu'on partage à trois, cette caravane mythique, elle, c'est magique. Et si on n'est pas là et qu'on n'est pas concentré sur notre conversation et sur le moment qu'on va, qu'est-ce qui va nous en rester? Il ne nous restera rien. Ben, je suis sûr que ce qu'on vit là juste maintenant, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ben, si nous, on arrive à être le lieu où les... Alors, c'est ambitieux, mais... Ou en tous les cas, voilà, si on arrive à créer du souvenir, ça, c'est déjà... Et le goût de revenir, Voilà, c'est ça, c'est ce qui est le plus dur, hein, c'est qu'on a la chance d'avoir, mais Bartabas il est comme moi, c'est que la presse promet qu'il se passe des choses, et avoir une critique dans notre sens, c'est plutôt, c'est génial, hein, franchement, c'est encourageant tout ça, mais c'est nous qui tenons les promesses. Donc,
c'est beau cette idée que vous travaillez pour que les gens reviennent.
Bien sûr, puis il y a surtout le côté du quotidien, quoi. C'est quand même deux métiers qui sont assez proches, dans la mesure où tous les jours il faut se remettre au taf, quoi. Et moi ce matin j'ai sorti mes chevaux, lui doit faire le marché, et puis après le soir ça recommence tous les jours. Ça c'est aussi important parce qu'il y a tellement de faiseurs, de chefs qui sont jamais là, en fait, ce n'est plus qu'un nom. Moi, je me bats contre ça, la reproduction. Alors, avec chance, dans le théâtre et le spectacle vivant, on est assez protégé parce qu'on ne peut pas générer beaucoup de profits. De toute façon, même quand une salle est pleine, ça restera toujours que 1000, 1200 personnes. Ce n'est pas un truc qui peut se reproduire à l'infini, donc générer, donc intéresser des grands capitaux, donc, et là, commencer à te bouffer de l'intérieur, quoi. Donc, on est un peu, bizarrement, on est un peu protégé dans la discipline. Mais par exemple, dans la cuisine, c'est vrai que c'est un fait de société, quoi. Maintenant, tout grand chef, il vend du surgelé, il a ses noms au Japon, il a 4 restaurants, et en fait, il n'est jamais plus là, quoi. Et donc, tu perds le côté, c'est comme si moi, je faisais des spectacles, j'étais jamais là, quoi. Donc ça, moi, j'aime bien ce côté-là aussi, voilà, il y a un côté artisanal, et en plus, ça te remet à ta place aussi. Tu peux pas t'endormir sur ton nom, voilà, tu sais que tous les jours, tu dois travailler. Si tu commences à pas travailler, tu vas baisser imperceptiblement. Tout le monde va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, mais toi, tu le sais, et petit à petit, les gens vont s'en rendre compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi, est vachement important.
On mange?
Allez, on mange.
Il y a des fruits.
Ouais. Bah, un peu de salade de fruits, vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon.
Si, attends.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Vous cuisinez, vous, Bartabas?
Oh, mais moi, c'est le basique. Hein.
Bah, j'avais déjà fait un atelier avec vous et vous m'aviez fait des pâtes.
Oui, c'est bien ce que je dis, le basique.
Bah, il faut savoir faire les pâtes et vous faites aussi des salades de fruits.
Oui, le matin, toujours, ouais. Salade de fruits, ouais. Après mon bain chaud.
Toujours la même chose?
Toujours la même chose. Bon, en général, j'ai pas trop de temps pour manger. À Aubervilliers, on est assez. Les chevaux nous bouffent pas mal de temps. On est obligé d'être un peu à leur rythme, quoi.
Jean-Pierre Drouet, comment vous la regardez, la vie des compagnons de Bartabas et de Bartabas lui-même? Comment vous observez tout ça?
J'ai pas d'opinion là-dessus. J'essaye pas de me faire une idée sur qu'est-ce que c'est que cette vie ou tout ça. Je vois qu'ils vivent bien. Ils ont l'air de se sentir pas mal. Quand j'ai participé, quand je me suis mêlé un peu à ça, je me sentais très bien aussi.
Et pour quelle raison vous vous sentiez bien?
Je sais pas. C'est peut-être la caravane, effectivement, le fait d'être, de pas être dans un bâtiment, d'être en rapport avec l'extérieur directement. Même quand on est dans la caravane, on est, comme disait Martex tout à l'heure, on est quand même en rapport avec la température, avec la lumière, etc., tout ça. Mais la présence des arbres aussi. Ma petite caravane était dans un bosquet d'acacias qui ont poussé, qui ont grandi pendant la durée de mon séjour là-bas. Ils sont devenus immenses. Au départ, ils étaient tout petits. Donc je les ai vus pousser, je les ai vus naître. Ouais.
Alors Jean-Pierre Drouet, si je vous donne un thème, caravane.
Vous voulez que je vous fasse une caravane? Je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, je vais essayer. Je n'ai jamais fait. Caravane passe.
Mais c'est vrai qu'on était à Zingaro, là, entre les chevaux, les oies, les ânes. On était chez vous.
Ce qu'il faut quand même expliquer, c'est qu'on vit sur notre lieu de travail, quoi. C'est quand même ça qui crée aussi un climat un peu particulier. On ne va pas travailler à Zingaro, on vit à Zingaro, quoi. Donc ça crée un climat assez particulier pendant les répétitions, pendant les créations, où tout s'entremêle, en fait, le travail et la vie quotidienne. On cherche quelqu'un en pleine répète, il est parti chercher son linge à la buanderie ou aller chercher son gamin à l'école. Voilà, chose qu'il n'y a pas quand on va travailler quelque part avec des horaires précis, quoi. Donc ça crée une ambiance assez particulière.
On va écouter un tube de Patti Smith extrait de son disque légendaire Horses. Le titre, c'est Gloria.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild card up my sleeve. thick. Heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes.
Patti Smith, c'est une artiste importante pour vous, Bartabas ?
Ah oui, j'adore, j'adore. Surtout quand elle est dans Brut Cash, comme ça, avec la pêche. Quand elle est dans ce registre-là, j'adore. Je l'ai vue il y a un an à l'Olympia,
ah oui.
Comme ça. Elle assure, comme on
elle
dit.
Elle assure, vous avez bien bougé. Jean-Pierre Drouet, vous aimez aussi Patti Smith ?
Oui, ça fait bouger.
Hein, ça fait bouger.
On ne peut pas faire autrement.
Sur le concert. Merci d'être venu avec tous vos amis. Il y en avait un paquet là, d'instruments. Il y a des instruments et puis des choses
sérieuse.
Qui ne ressemblent pas à des instruments. Hein. Comment vous pouvez décrire ces instruments qui ont permis de faire le son de la caravane ?
La caravane ?
Oui, c'est quoi ça ?
Alors ça, c'est une invention de percussionnistes américains. C'est déjà assez vieux. Ça s'appelle les Super Bowls. La Super Bowl, en fait, c'est la balle qui rebondit presque aussi haut que le point d'où on la lâche. Et en mettant une baguette dedans, ou là j'ai mis même une brochette, en frottant, la vibration de la balle, du frottement sur le bois.
Et à côté de vous, là ?
Alors ça, c'est un instrument africain qu'on appelle de kalimba, mais c'est un autre nom, des sansa. Ce sont des morceaux de rayons de vélo coupés à des tailles différentes et fixés sur des boîtes de harengs. C'est
C'est avec ça que j'ai accompagné l'architecte tout à l'heure.
Merci beaucoup, c'était Sophie Ricard, oui, qui était l'une des invitées de Bartabas aujourd'hui dans son grand atelier. Merci d'avoir été là tout au long de l'émission.
C'était un plaisir.
Merci Bartabas pour ce passage ici à France Inter. Merci d'être sorti d'Aubervilliers, de votre fort d'Aubervilliers.
Merci à vous de m'avoir permis de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas très souvent aussi. Quoi,
voilà. C'est vrai que c'était bien et éclectique, votre programme. Dites-nous que ce n'est pas le dernier spectacle de Zingaro.
Non, rassurez-vous, je ne sais pas encore, on verra bien.
C'est un scoop, j'ai l'info. C'était une fausse info, ce n'est pas le dernier spectacle de Bartabas. Portez-vous bien et à bientôt.